Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, vous êtes bien sur RMC, c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Les infos, le journal présenté par Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Quelle mobilisation mardi prochain contre la réforme des retraites? Si les mouvements semblent particulièrement bien suivis dans certains secteurs, d'autres marquent le pas, c'est le cas dans l'éducation nationale. Le ministère de l'économie a-t-il étouffé un rapport sur les autoroutes visant à baisser le prix des péages? C'est ce que révèle le Canard enchaîné alors que les prix augmentent au 1er février. Et puis le handball, Nicolas Karabatic est incertain pour la demi-finale du mondial de hand ce soir face à la Suède.
Plus d'un million de Français ont battu le pavé la semaine dernière. Combien seront-ils mardi prochain dans les rues?
C'est la question que tout le monde se pose. Les syndicats tentent de mobiliser, mais une deuxième journée de grève, c'est une journée de salaire en moins. Illustration dans l'éducation nationale. RMC vous dévoile ce matin que seuls 40% des directeurs d'école ont l'intention de faire grève contre 65% la semaine dernière. Une tendance, Martin Bourdin, qui pourrait se généraliser dans les écoles primaires.
Le 19 janvier, l'école où travaille Gabriel était fermée. Les profs étaient tous grévistes, mais mardi, ils seront bien présents. Difficile de se mobiliser à nouveau.
C'est vrai que les deux grèves, elles sont à 10 jours d'intervalle et financièrement, ça représente beaucoup.
Pour elle, deux jours de grève en un mois, c'est environ 200 euros en moins sur la fiche de paie à la fin du mois, 10% de son salaire. Un projet pédagogique prévu depuis longtemps l'incite aussi à être présente face aux élèves.
C'est rare qu'il y ait plusieurs grèves qui soient suivies et qui soient très proches.
Plusieurs syndicats d'enseignants craignent donc une mobilisation plus faible mardi. Thierry Pajot, le secrétaire général du syndicat des directeurs et directrices d'école, vient de sonder ses 1600 adhérents.
Pour le 19 janvier, c'était une remontée forte à 65% de volonté de faire grève, alors que cette fois-ci, on monte à 40%.
Mais il tient à préciser, ça ne veut pas dire que les enseignants soutiennent le projet du gouvernement.
Beaucoup d'enseignants qui n'ont pas fait grève la première fois vont faire la deuxième. Et également à l'inverse, des enseignants qui ont fait la première ne vont pas faire la deuxième. Je ne veux pas que le gouvernement, le 31 au soir, dise « Ah oui, il y a moins de monde ». Nous n'avons pas des salaires qui nous permettent de faire grève sans arrêt.
Il aimerait qu'une grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites soit organisée un samedi, par exemple, pour permettre au monde enseignant d'exprimer haut et fort sa colère.
Et d'ici à mardi, les initiatives locales se poursuivent. Une partie des salariés du secteur de l'énergie reste mobilisée aujourd'hui. Hier soir, des marches au flambeau ont été organisées dans plusieurs villes de France à l'appel de plusieurs syndicats. Un millier de personnes ont battu le pavé à Paris, la capitale qui fermera les portes de sa mairie mardi prochain, répondant à l'appel de Fabien Roussel. Et ce, afin de permettre à ses employés d'aller manifester. Si un service minimum sera assuré, la décision ne passe pas du tout auprès de l'élu Les Républicains, Claire Carrère-Gé. Elle invitée de Marguerite Dumont tout à l'heure sur RMC.
Madame Hidalgo n'a pas le droit de fermer la mairie de Paris un jour de grève. Elle est, comme maire de Paris, en charge de garantir la neutralité et la continuité du service public à Paris. Et comme tout employeur, Madame Hidalgo n'a pas à faire pression sur les fonctionnaires pour faire grève ou d'ailleurs pour pas faire grève.
Le projet de loi sur la réforme des retraites qui entame son parcours parlementaire, plus de 7000 amendements ont été déposés. Beaucoup concernent l'article 7 sur l'âge légal de départ à 64 ans. Baisser de 60% le prix des péages aux autoroutes, c'est l'une des conclusions d'un rapport commandé par Bruno Le Maire à l'inspection des finances en 2021. Mais selon Canard enchaîné, ce rapport n'a jamais été rendu public, au point de se demander si l'État n'a pas étouffé l'existence de ce document. Une affaire qui intervient alors que les prix vont fortement augmenter au 1er février à plus de 4%, Vincent Chevalier.
45 000 kilomètres par an avec son travail. Yann est très souvent sur les routes et donc sur les autoroutes.
Alors je sais pas si je paye le prix juste, mais le prix il est quand même relativement élevé, oui.
Si ce directeur des ventes ne se plaint pas de leur qualité, ce n'est pas le cas d'Elisabeth.
Quand il y a un problème, quand il y a, on perd du temps et on n'a aucune excuse, rien du tout, il suffit de payer.
Dans ces conditions, difficile d'accepter une nouvelle hausse des prix au 1er février. La nationalisation des autoroutes représente alors une vraie solution pour certains.
Les prix seraient plus lissé peut-être.
Est-ce que potentiellement l'argent serait réinvesti pour les autoroutes après c'est la grande question.
La France Insoumise avait déposé une proposition de loi dans ce sens, texte rejeté en première lecture, mais les élus n'en démordent pas.
Il faut reprendre la maîtrise publique sur un certain nombre d'infrastructures et les autoroutes doivent en faire partie.
Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis.
C'est une expropriation de l'État qui doit être réalisée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas en plus repayer à ces sociétés-là. On leur a fait un cadeau depuis des années où elles ont engrangé de l'argent. Aujourd'hui, ça suffit. Il faut que ça revienne sous maîtrise publique. C'est une urgence absolue.
Les concessions autoroutières arriveront à échéance dans les 10 prochaines années, entre 2031 et 2036.
Il est 8h04 sur RMC, l'heure était aux plaidoiries des parties civiles ce vendredi au procès en appel de Bruno Garcia à Ajaccio. L'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité et la déchéance de l'autorité parentale pour l'assassinat de Julie Douib en 2019. Hier, des enregistrements ont été diffusés lors de son audition. On l'entend insulter et humilier son ex-compagne. Insoutenable et très difficile à entendre pour le père de la victime, Lucien Douib.
On savait qu'elle avait pris des coups, on savait qu'il avait une violence psychologique. Mais on n'avait pas ce bruit d'entendre sa fille hurler et entendre le bruit et les enfants derrière. C'est insoutenable. C'est vraiment un truc et une chose qui est affreuse. Ça détruit une deuxième fois. On ne peut pas se rendre compte. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que la justice soit rendue à Julie. Je serais vraiment anéanti si j'avais pas, on sortait pas avec la destitution d'autorité parentale. Ça, c'est clair. Ça ne peut pas en être autrement. Ça serait, je pense, encore pire que tout, mais ça serait vraiment inacceptable pour moi.
Gérald Darmanin, dans l'Essonne ce matin, le ministre de l'Intérieur sera dans un centre SPA afin de présenter les contours d'un nouveau service d'enquête de lutte contre la maltraitance animale. 15 enquêteurs dédiés au sujet. Tsitsipas décroche le premier billet pour la finale de l'Open d'Australie. Le match vient de se terminer. Le Grec s'impose face à Khachanov, 3-7 à 1 à suivre dans la matinée. Novak Djokovic opposé à Tommy Paul. Le père du Serbe annonce ce matin ne pas assister au match de son fils après avoir été filmé hier en compagnie de supporters pro-russes. On prend maintenant la direction de Stockholm. C'est là que l'équipe de France de handball va disputer ce soir la demi-finale du mondial face à la Suède, pays hôte de la compétition, mais aussi la bête noire des Bleus, battue en 2021 et 2022 au même stade de la compétition. C'est une motivation supplémentaire pour le sélectionneur, Guillaume Gilles.
On a effectivement de souvenirs négatifs face aux Suédois lors des deux dernières éditions. Et on est dans un contexte complètement différent, acquis à leur cause. On a de quoi faire, on a de quoi être au rendez-vous pour rivaliser et pour tout faire pour rentrer en finale.
Et on retrouve sur place notre envoyé spécial depuis le début du tournoi, Arnaud Valadon. Arnaud, vous êtes à Stockholm. Les Bleus invaincus depuis le début du tournoi vont affronter la Suède avec une interrogation sur la participation de Nicolas Karabatic.
Oui, 7 victoires en 7 matchs pour se retrouver ici aux portes de la finale. Le parcours des champions olympiques français a été très bon avec deux dernières victoires solides contre l'Espagne et l'Allemagne en quart de finale mercredi. La Suède qui co-organise ce championnat du monde avec la Pologne a eu jusqu'ici un parcours beaucoup moins sinueux. Ce soir à Stockholm, dans un stade de football transformé en arène fermée de 20 000 spectateurs, la France retrouve aussi sa bête noire suédoise. Vous l'avez dit Thibaut, deux défaites en 2021 et 2022 en demi-finale, dont un scénario cruel l'an passé avec un seul but d'écart. Les handballeurs français dont l'objectif est d'être champion n'entendent pas laisser passer leur chance, certes possiblement sans l'école star Nicolas Karabatic dont le pied est toujours douloureux, mais la Suède a aussi perdu hier son meilleur joueur sur blessure.
Arnaud Valadon en direct de Stockholm, et Arnaud, on vous retrouve ce soir pour le match à suivre à 21h sur RMC. Vous serez bien évidemment aux commentaires de cette demi-finale.